Chapitre 39. Jehan le brave était parti en courant. Il était fou de joie et il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Une seule pensée lucide était en lui. Elle est vivante et je sais où elle est. Quand je devrais démolir l'abbaye pierre à pierre, il faudra bien que je la délivre. Il aurait dû, puisqu'il était si pressé, longer la butte Saint-Roch et couper à travers champs, derrière la ville l'évêque, ce qui eût raccourci notablement son chemin. Son premier mouvement l'avait lancé droit devant lui, dans le faubourg Saint-Honoré. Sans réfléchir, il continua à piquer droit devant lui. En passant, il bouscula fortement les gentilshommes de Concini. Il n'y prit pas garde, il ne s'excusa pas, il n'avait pas de temps à perdre. Il entendit bien des protestations véhémentes, des injures, des menaces. Il ne répondit pas, il ne se retourna pas, il continua sa course furieuse. Ceux qui l'avaient bousculé voulurent s'élancer pour châtier l'insolent. Mais leur maître, qui venait de les rejoindre, les arrêta. En voyant la direction prise par Jehan, Concini eut l'intuition qu'il courait à Montmartre. Notez qu'il pouvait aussi bien s'arrêter au hameau du Roule, qui se trouvait au bout de la route. Là, il pouvait encore, tournant à gauche, pousser jusqu'à Chaillot. Concini écarta ses hypothèses. Non, Jehan allait à Montmartre. Cette idée prit dans son esprit la force d'une certitude. Et, ivre de joie, il grinça. « Je le tiens !» L'ordre qu'il avait donné à un de ses gentilshommes avait été exécuté. Il avait avec lui 12 hommes. Il fit ce que le jeune homme avait négligé de faire. Il s'élança avec sa bande par le raccourci. Au bout du faubourg, après avoir passé le couvent des Capucins, Jehan tourna à droite. Alors il se dit « Au fait, pourquoi courir ainsi? Maintenant que je sais où elle est, je la délivrerai, cela ne souffre aucun doute. Il ne faudrait pourtant pas avoir la naïveté de croire que cela va s'effectuer à l'instant, sans difficulté aucune. Ce serait trop simple et trop beau. M'est avis que les choses ne vont pas marcher toutes seules. Il faudra du temps, de la patience et de la prudence. Me garder surtout d'attirer l'attention sur moi. Marchons posément, morbleu, comme un bon badaud qui baille aux corneilles, et allons étudier de près cette abbaye. Après quoi, j'aviserai. » Il fit comme il avait décidé. Il ralentit le pas et prit l'allure d'un flâneur. Il arriva au pont Arcance qui enjambait l'égout. Il le franchit et, quelques toises plus loin, il tourna à droite. Ici, une description des lieux s'impose. Ce que nous appellerons la Grande Route allait de l'ouest à l'est en infléchissant légèrement vers le sud depuis les environs du pont Arcance jusqu'au bout du faubourg Montmartre. Au bas de la butte, sous la chapelle du Martyr, cette route était barrée par la croix au pied de laquelle nous avons vu Ravaillac en prière. Nous rappelons avoir dit qu'il y avait là un chemin, lequel passait sur le côté est de la chapelle, longeait l'abbaye et allait se perdre sur le versant opposé. C'est par ce chemin que devait passer Jehan pour atteindre le haut de la butte et étudier la topographie du couvent. Revenons en arrière. Sur la route où il se trouvait, le jeune homme avait, à sa droite et à sa gauche, des terrains vagues, des marais et des champs. Ensuite, sur la droite, le château des Porcherons. Passé le château, depuis son mur d'enceinte, une enfilade de maisonnettes. Plus loin, et jusqu'à proximité du carrefour où se dressait la croix, quelques autres habitations, irrégulièrement espacées, avec leurs petits jardins, entourés de treillages, de haies ou de solides et hautes murailles. Bien entendu, toutes ces maisons étaient campées au petit bonheur, sans ordre ni symétrie, avec un dédain absolu de l'alignement. Les unes avançaient effrontément sur la route, les autres, honteuses ou craintives, se tenaient à l'écart. Tout cela formait, coins et recoins, angles et renfoncements. En face du château, un îlot chargé d'une demi-douzaine de maisons avec leurs vergers. Un chemin contournait cet îlot, passait au pied d'une éminence sur laquelle se dressait un moulin et venait rejoindre la grande route. À l'intersection de ce chemin et de la route se trouvaient quelques masures. Au pied de l'éminence et de son moulin, caché par les maisons qui couvraient l'îlot, Concini et ses 12 hommes se tenaient à l'affût. Jehan s'avançait d'un pas souple et léger. Depuis qu'il savait où trouver Bertille, sûr de la délivrer, la joie l'inondait. Jamais fin d'après-midi ne lui avait paru aussi belle, aussi rayonnante que celle-là. Il allait plein d'espoir en fredonnant joyeusement une chanson. Il avait dépassé le château des Porcherons et l'îlot qui lui faisait face. Il avait dépassé les masures qui bordaient la grande route et le petit chemin. Il n'avait rien vu, rien remarqué. Et d'ailleurs, il ne se méfiait pas. Il entendit derrière lui une galopade frénétique et des voix rauques crier « Sus, sus !» Il se retourna, le sourcil froncé. Dans le même instant, il eut la rapière au poing, prêt à recevoir les 12 estafiers qui grimpaient la côte en soufflant bruyamment. Et il reconnut Concini qui, derrière ses hommes, criait, ivre de joie, « Vivant, sang du Christ, il me le faut vivant !»« Eh, c'est l'illustre signor Concini !» railla Jehan. « Depuis que ma main s'est appesantie sur ta face de coire, il faut toujours que tu te caches derrière quelque chose ou quelqu'un. » « Sus, sus !» hurlèrent les estafiers en couvrant sa voix de leur clameur. « À vous, monsieur l'insolent, qui bousculez les gens sans vous excuser !» crièrent les gentilshommes. « Doucement, mes agneaux !» tonna Jehan. « Je vais vous bousculer avec ceci. Et ceci pique et taille, je vous en avertis. » Et sa rapière se mit à décrire ce fulgurant moulinet qui lui était familier. Hainaut, Longval, Roquetaille et Saint-Julien attaquèrent de face. Les 8 autres s'éparpillèrent à droite et à gauche, cherchant à l'envelopper pour le saisir, excités par Concini, qui ne cessait de crier « Prenez-le vivant ! N'oubliez pas !» Un cri sourd, une imprécation, un hurlement, une malédiction. C'étaient 4 hommes mis hors de combat par le terrible moulinet. Les coupe-jarrets, stupéfaits, s'arrêtèrent, hésitants. « À qui le tour ?» claironna Jehan. « Je vous avais averti, cela pique et taille !»« Tu, tu !» crièrent les assassins, exaspérés par cette résistance imprévue. « Hardi, foncez, suze à la bête !» rugit Concini, pâle de rage. Les 8 qui restaient revinrent à la charge. Mais ils ne pensaient plus à le prendre vivant. Concini lui-même oubliait de le leur rappeler. Il y eut un choc effrayant. La rapière, l'infernale rapière qui barrait la route à elle seule, la rapière tournoya, siffla, piqua, voltigea, frappa de pointe et de taille. 3 hommes tombèrent. Parmi ceux-là, Saint-Julien, frappé d'un coup de taille en plein visage. « Tu ne sais même pas choisir tes assassins !» cria Jehan à Concini écumant, qui s'arrachait les cheveux. « Encore un, à qui le tour ? À qui ?» C'était vrai, cette chose prodigieuse avait été réalisée en un rien de temps. 8 corps, morts ou grièvement atteints, gisaient sur la route blanche. Les 4 survivants s'arrêtèrent, effarés. Si ces 4-là avaient été les coupe-jarrets qui mordaient la poussière au lieu des gentilshommes, nul doute qu'ils n'eussent pris la fuite à l'instant. Le seul qui restait encadré par Roquetaille, Hainaut et Longval demeura ferme. « Ça pique, ça taille !» cria encore Jehan en éclatant de rire. « Approchez, mes agneaux ! Non ? Alors je vais vous charger !» Et il allait charger en effet. À ce moment, derrière lui, retentirent des hurlements. « Tue, tue !» suivi d'une dégringolade furieuse. « À nous !» hurla Concini. « Tue, tue ! Pas de quartier ! Cernez la bête !» Et il se rua lui-même le fer au poing, à la rescousse de ces hommes qui, électrisés par le secours qui leur arrivait, chargèrent avec impétuosité. Jehan avait arrêté son élan. Il tourna la tête au lieu de charger comme il avait dit. Une troupe d'une 10 d'estafiers débouchait en hurlant du carrefour de la Croix. Dans un instant, elle serait sur lui. Il était pris entre 2 feux. « Je ne peux pourtant pas mourir avant de l'avoir sauvé !» criait-il dans son esprit. Après avoir regardé derrière, il jeta un coup d'œil autour de lui. Il avait dépassé les masures. À sa droite, c'étaient des terrains vagues. Fuir par là ? La pensée ne l'effleura même pas. À sa gauche, un mur haut, solide, un renfoncement. C'était une porte. Le salut était peut-être là. En tout cas, il aurait ses adversaires en face. On ne pourrait pas le frapper par derrière. Mais il fallait y arriver avant que la bande hurlante, là derrière, ne fût sur lui. Il fit un bond prodigieux. « Il en tient ! Il en tient !» triompha une voix. C'était encore vrai. L'instant inappréciablement court pendant lequel il avait regardé derrière et autour de lui avait suffi. Il était touché à l'épaule. Il ne s'en aperçut d'ailleurs pas. Il avait atteint le renfoncement. Il eut une seconde de répit. C'est très court, une seconde. Voici tout ce qu'il fit pendant cet espace de temps si bref. Il souffla. Il reconnut la place. Il y avait une marche derrière lui. Il la monta et tâta la porte de sa main gauche, passée derrière le dos. Elle était fermée, hélas. Il redescendit. Il compta ses adversaires. Ils étaient une quinzaine. Il songea. J'en découdrai bien encore quelques-uns. Mais après. Il tapa du pied avec colère et « Je ne peux pas mourir ici, c'est impossible, je ne le veux pas. » Voilà tout ce qu'il fit et pensa en une seconde. Il nous en a fallu bien davantage pour l'écrire. Les deux bandes réunies étaient maintenant devant lui. En tête, Longval, Roquetaille et Nau. Ils attaquèrent avec frénésie. Et maintenant qu'il se sentait sûr de le tenir, Concini avait rengainé et, derrière ses hommes, il recommençait à recommander « Prenez-le vivant ! La bête est acculée ! Coiffez-la, mes braves !»« Viens la chercher, voyageant, Jehan, mais tu n'oseras pas, tu es trop lâche !» Encore un cri sourd, un cri de fureur. « Démon !» C'est Nos qui tombe, deux hommes de plus hors de combat, cela fait 10. Jehan est en lambeaux, sa poitrine, ses bras sont couverts d'estafilades cuisantes. Le sang coule sur son visage et sur ses mains. Il tient bon cependant. Mais il est à bout de souffle, ses doigts s'engourdissent. Ce n'est plus l'attaque impétueuse de tout à l'heure. Il part. Il a fort à faire à parer tous les coups qui pleuvent sur lui de toutes parts. Concini le voit à bout. Il exulte, il trépigne, il clame. « Sus, hardi, il est à nous !»« Pas encore !» allaite Jehan. Un regain de vigueur. Un suprême effort, une reprise imprévue, foudroyante, du fantastique moulinet. Pif, un râle, un homme tombe pour ne plus se relever. Paf, un sourd gémissement, c'est un autre homme à terre. Vlig, une imprécation. Malédiction, c'est Longval qui s'affaisse. Et cela fait 13 assassins le nez dans la poussière. 13, chiffre fatidique. Ils étaient 13, en comptant Concini, lorsqu'ils commencèrent l'attaque. Mais c'est aussi le bouquet, c'est la fin. Un voile passe sur les yeux de Jehan. Il se voit perdu. À ce moment, Roquetaille, le dernier des gentilshommes encore en ligne, Roquetaille, furieux de la défaite de ses compagnons, animé du désir de les venger, oubliant la recommandation de son maître, rugit « Meurs, chien !» Et il se fend à fond. Un horrible juron lui échappe, le cou à porter dans le vide. Jehan a disparu. Il y eut parmi la bande un moment de stupeur pendant lequel le silence plana. Puis ce fut l'explosion, les cris, les jurons, les imprécations, les menaces. Et puis la ruée sur la porte martelée à coups de pied, de poing, du pommeau de l'épée. Mais la porte était solide, elle résista. Alors ce fut la course affolée autour du mur, la recherche d'une issue par où pénétrer dans la place. Et pendant que ces hommes s'obstinaient à chercher, Concini, désespéré, blême de honte, tremblant de fureur, contemplait d'un œil morne la route jonchée de corps raides, immobiles, étendue de distance en distance dans des flaques de sang. Et la pensée lui vint d'escargasse, gringaille et carcagne. Savait-il si cette propriété n'était pas le repère des truands? Et si cela était? S'il lui tombait tous les quatre dessus, en jugé par l'effroyable besogne accomplie par un seul, lui et les 10 braves qui lui restaient ne pèseraient pas lourd sous les coups de ces démons. Le mieux était de tirer au large et tout de suite. Il rappela ses hommes et la bande morne et silencieuse reprit, tête basse, le chemin de la ville, emportant ses morts et ses blessés.